Ok, je vous propose de poursuivre notre série dans l'évangile de Matthieu. Nous avons commencé il y a quelques mois. Nous sommes dans le chapitre 2 et nous allons lire les versets 1 à 11. Et ensuite je ferai quelques remarques d'introduction. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jusqu'ici, la lecture, on peut éventuellement même lire le verset 12. « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Je propose de prier encore. Père, accorde-nous de vivre encore ce moment comme une prolongation du culte que nous te rendons. Nous te louons pour ta parole que tu as fait parvenir jusqu'à nous, et que nous pouvons même lire dans un langage que nous comprenons. Nous te bénissons et te louons pour Matthieu, l'apôtre, que tu as inspiré par ton Saint-Esprit afin qu'il nous communique ces récits précieux et merveilleux des premières heures de la venue de ton Fils Jésus dans notre monde. Et nous voulons te prier, notre Dieu, que tu nous bénisses de toutes les bénédictions et de toutes les grâces que tu as attachées à ce texte et à la méditation de ce texte. Que notre foi, notre espérance, Père, et notre amour puissent grandir, et que le nom de Jésus soit encore honoré ce matin au milieu de nous. Aide-moi à parler clairement et accorde aussi à ceux qui écoutent de pouvoir écouter attentivement et d'entendre ta voix. Garde-moi de toute erreur et que nous puissions nous réjouir d'entendre la parole du Dieu saint et vivant. Amen. La dernière fois, nous avons commencé, la dernière fois que nous parlions de Matthieu, nous avons commencé à réfléchir à l'une des trois vérités spirituelles mises en évidence, mises en lumière par la venue des mages en Judée. Et si vous ne vous en souvenez pas, la première de ces vérités, c'était le fait que la venue des mages en Judée met en évidence le fait que Christ, même abaissé, même dans la condition d'un nouveau-né, est plus excellent, plus digne, plus grand et plus important que les grands de ce monde. Alors je ne referai pas le message en entier, mais tout ce qu'ils ont dû traversé ces mages pour arriver jusque-là, et la manière dont ils se comportent une fois venus auprès de Jésus, alors qu'il y avait des rois autour d'eux. Il y avait un autre roi sur le trône en Judée, Hérode, appelé même Hérode le Grand. Et pourtant, c'est vers ce nouveau-né qu'ils se rendent pour se prosterner. Et donc, voilà la première vérité mise en lumière par leur venue. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, même dans la condition abaissée d'un nouveau-né, est plus digne d'honneur que les grands de ce monde. Ce matin, nous allons voir une seconde vérité qui émerge du fait que les mages sont venus en Judée. Et juste quelques mots d'introduction, quelques remarques préliminaires, nous pourrions facilement passer à côté de cette vérité comme à côté de bien d'autres, parce que ce sont des récits que nous connaissons, n'est-ce pas? Et je l'ai déjà dit à d'autres moments. Et parfois, la familiarité avec des récits font que nous lisons un peu trop vite, sans nous poser de questions. Or, la bénédiction de la parole de Dieu n'est pas simplement pour ceux qui lisent, point, mais pour ceux qui, psaume 1, méditent. Autrement dit, pour ceux qui savent ralentir et se poser des questions, demander au texte un certain nombre de choses. Il s'agit de creuser, n'est-ce pas, et d'aller beaucoup plus en profondeur pour en tirer les trésors qui y sont contenus. Et donc, nous ne devrions pas avoir une approche que je pourrais qualifier et que nous pourrions qualifier de superstitieuse un peu, hein, parce que nous avons lu le verset du jour, ou même le chapitre du jour, ou même les quatre chapitres du jour. Est-ce que nous avons vraiment reçu la bénédiction que Dieu attache à sa parole? Pas forcément, si nous ne faisons que survoler le texte. Alors, j'aurais tendance à dire que probablement il est mieux de le survoler que de ne pas le lire du tout. Mais nous voulons aller plus loin ensemble. Et une dernière remarque par rapport à l'effort de méditer un texte, c'est que nous oublions parfois que Dieu ne nous a pas simplement donné un corps, mais aussi une intelligence. Et cette intelligence n'est pas premièrement pour trouver les bonnes réponses à un examen, même si ça l'est. Ce n'est pas premièrement pour trouver les bonnes réponses éventuellement à un quiz, à un jeu, même s'il n'y a rien de mauvais à cela, c'est légitime. Notre intelligence n'est pas non plus pour éclabousser les autres, avec notre éloquence et impressionner ceux qui nous écoutent. Mais notre intelligence a été faite par Dieu, d'abord pour Dieu. D'abord pour que nous puissions nous pencher sur sa parole, tendre l'oreille et comprendre, recevoir tous les trésors de vérité qu'il a à nous dire. Et donc je nous invite à redoubler d'efforts, et je sais que la plupart ici qui sont lecteurs assidus de la Bible le font, mais je nous encourage à persévérer dans l'étude méditative de la parole de Dieu. La méditation biblique, ce n'est pas vider son esprit, mais c'est au contraire remplir son esprit de la parole de Dieu. Voici une série de questions que l'on pourrait poser à ce texte que nous avons lu. Comment ont-ils entendu parler du roi des Juifs? Ce sont des mages qui vivent en Orient, qui sont dans une région éloignée. Ils ne sont pas juifs eux-mêmes. Comment se fait-il alors qu'ils ont non seulement entendu parler du roi des Juifs, mais qu'ils entreprennent un voyage pour aller se prosterner devant lui? D'ailleurs, autre question, comment ont-ils su qu'il était né? Comment ont-ils su que cette étoile filante qu'ils ont aperçue dans les cieux annonçait la naissance du Christ? Autre question encore. C'est une chose de comprendre que cette étoile filante annonce le moment où devait naître le Christ, mais d'où vient qu'ils savent qu'ils doivent se rendre à Jérusalem et que cette étoile leur indique la direction? Et par-dessus tout, la question peut-être la plus importante, d'où vient leur conviction que ce roi doit être honoré de manière suprême par tous les humains d'où qu'ils viennent? C'est clairement leur conviction, puisqu'ils viennent à Jérusalem, se prosternent devant lui, lui rendent honneur et même lui font des offrandes. Eh bien, la réponse à ces questions, je crois qu'on peut la résumer de cette manière. Dieu est celui qui a conduit les mages vers le Christ de manière salutaire. Dieu est celui qui a conduit les mages vers le Christ de manière salutaire. Pour le dire autrement, tout ce voyage des mages a été possible à cause de l'initiative de Dieu, cette œuvre par laquelle il sauve les pécheurs en les conduisant à reconnaître et à se placer sous la seigneurie de Jésus-Christ. Pour le dire encore autrement, la raison pour laquelle ces mages ont trouvé la faveur de Dieu qui les a conduits, qui les a guidés vers le Christ, c'est parce que Dieu a initié de leur révéler, il a commencé de leur révéler des vérités concernant le roi des Juifs, concernant le Christ. Et c'est lui qui les a conduits. Autrement dit, donc, sans l'intervention de Dieu, il n'y aurait certainement pas eu ce voyage des mages, et encore moins cette conviction en eux que le roi des Juifs est en fait le roi des rois. Et si vous êtes là ce matin, chrétien, convaincu de la seigneurie de Jésus, c'est parce que Dieu a agi dans votre vie de la même manière qu'il a agi dans la vie de ces mages. Et nous allons voir, premier point, les deux moyens employés par Dieu, et deuxième point, quelques applications. Voilà pour ce matin. Premièrement, donc, les deux moyens employés par Dieu pour les conduire au Christ. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, les deux moyens commencent par un P. Parole de Dieu, providence de Dieu. Nous avons dit donc que c'est Dieu qui les a conduits, mais nous devons nous demander comment l'a-t-il fait ? Comment est-ce qu'il s'y est pris ? Eh bien, première chose, il l'a fait par sa parole, par la vérité de sa parole. De toute évidence, sans même que Matthieu ne nous donne les détails, nous pouvons affirmer avec confiance que ces mages avaient été instruits d'une manière ou d'une autre concernant le Messie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont pu inventer, ça ne s'invente pas, hein, qu'un Messie juif naîtrait et serait l'héritier du roi David qui doit instaurer un royaume éternel et sans fin. Ça s'invente difficilement, c'est quand même très précis, et qui devait naître à Bethléem conformément à ce que les prophètes avaient annoncé. Alors, comment dans notre texte nous voyons, quels sont les indices, les indications qui nous montrent que la parole de Dieu leur était parvenue? D'abord, premièrement, regardez où est-ce qu'ils sont venus pour trouver le roi des Juifs. Je l'ai déjà mentionné, verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jérusalem, peut-être aujourd'hui dans la culture actuelle, déchristianisée et je dirais avec le néo-paganisme, nouveau paganisme, nous ne savons plus l'histoire de l'humanité et en particulier l'histoire notamment de l'ancien peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et mais Jérusalem n'est pas une ville anodine. Ce n'est pas une ville sans importance dans l'histoire de la rédemption que Dieu accomplit pour les hommes. Qu'est-ce qui nous fait dire cela ? Eh bien, c'est à Jérusalem que Dieu avait choisi, si vous lisez l'Ancien Testament, de faire résider son nom, de manifester plus qu'ailleurs sa présence, en étant au milieu de son peuple. C'est à Jérusalem que le roi David, le roi appelé roi selon le cœur de Dieu, le roi élu, choisi par Dieu, c'est à Jérusalem qu'il avait son trône. Et nous savons que David est une sorte de préfiguration, il a vécu des choses qui préfiguraient ce que le Christ lui-même allait accomplir, notamment lorsqu'il délivrait son peuple des armées menaçantes, des armées étrangères. C'était une préfiguration du Christ qui viendrait délivrer son peuple des armées démoniaques et du péché. Le Christ est le nouveau David qui vient sauver ceux qui se confient en lui. Enfin, Jérusalem, c'est aussi là où se trouvait quoi ? Le temple. Le temple du vrai Dieu. C'est à Jérusalem que le vrai culte avait été établi. C'est ce que Dieu avait demandé. Il avait choisi cette ville pour que les prêtres et les responsables du culte rendent à cet endroit les honneurs dus à Dieu. Et c'est ici aussi que le peuple régulièrement se rendait pour les différentes fêtes au cours de l'année. Les pèlerins montaient vers Jérusalem. Et à ce sujet, juste une parenthèse, vous avez dans les psaumes une série de quelques psaumes qui s'appellent psaumes des degrés ou des montées. On pense que c'était probablement des psaumes chantés par les pèlerins qui se rendaient au moment des fêtes vers Jérusalem. Et enfin, on peut dire encore une chose ce matin concernant Jérusalem. Le Seigneur Jésus nous dira dans Luc 24, vous pouvez prendre avec moi, que c'est à partir de là, à partir de Jérusalem, que se répandra la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Luc chapitre 24, je lis à partir du verset 45. Luc 24, à partir du verset 45. Nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ses disciples ne comprenaient pas. Verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, lorsque ces mages, pour revenir à eux, arrivent à Jérusalem, il serait difficile de conclure à un concours de circonstances, à un hasard bienheureux. Ils sont tombés au bon endroit au bon moment. Non, clairement, ils ont été en contact avec la parole de Dieu qui régulièrement nous rappelle la place importante que Jérusalem devait avoir dans cette première période jusqu'à la venue du Christ. Il en est autrement aujourd'hui, mais en tout cas à cette époque, Jérusalem avait cette place décisive. Deuxième chose dans le texte qui nous permet d'affirmer que les mages ont été en contact avec la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle, et ça a déjà été mentionné, la raison pour laquelle ils viennent à Jérusalem. Que sont-ils venus faire ? Peut-être poser des questions un peu triviales, mais qui nous montrent l'évidence de leur voyage, du but de leur voyage. Sont-ils venus faire du tourisme, simplement ? Sont-ils venus faire un peu de commerce ? Eh bien, lisons ce qu'ils disent de leur propre bouche, verset 2. Matthieu 2, verset 2. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Et écoutez leur objectif. « Et nous sommes venus l'adorer. » Alors j'avais expliqué qu'une traduction meilleure, c'est plutôt lui rendre hommage. Ici, probablement à cette époque, les mages ne sont pas encore conscients de la divinité du Messie. Donc une meilleure traduction, d'autres traductions rendent plutôt par « nous sommes venus lui rendre hommage ou lui rendre honneur ». Okay, ce qui est, je pense, plus adéquat. Mais cela change très peu de choses. Ils sont venus parce qu'ils ont reconnu la dignité suprême de ce nouveau-né. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez de nombreuses références concernant le descendant d'Abraham, qui est aussi le descendant de David, qui est le Christ. Et de nombreuses références qui indiquent que ce Christ aura le gouvernement des nations. C'est lui qui sera le chef du monde. Je vais lire quelques références, pareil. Désolé, ce matin j'en ai plusieurs, c'est pas habituel pour les prédications textuelles suivies, mais je crois que c'est utile pour poser quand même le décor. Vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais simplement citer les références et lire. Genèse 22, verset 18. Voilà ce que Dieu dit à Abraham après que Abraham ait démontré sa foi et sa confiance en Dieu lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, que Dieu a stoppé la chose et lui a dit « Je vois maintenant que tu me crains ». Non pas que Dieu l'ignorait, mais Dieu voulait que Abraham le démontre. Et ainsi, Abraham est un exemple pour nous de la foi qui doit produire des œuvres. Et voilà ce que Dieu lui dit, verset 18. « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Et ici, cette descendance désigne le Messie, le Christ. Psaume 2, versets 6 à 8. Voici ce qui est dit. C'est moi qui ai sacré ou consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Sion, c'est la montagne à Jérusalem. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, écoutez bien, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Lisons encore deux textes, si vous voulez bien, dans Daniel chapitre 7, puis dans Éphésiens. Daniel, qui est donc un livre juste après Ézéchiel, au chapitre 7. Et voici ce que Daniel, dans ses visions, qui lui sont données par Dieu, voit. Versets 13 et 14. « Je regardais, dit Daniel, pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, c'est-à-dire vers l'Éternel, et on le fit approcher de lui. » Et écoutez bien ce que l'on fait pour ce fils de l'homme que Daniel voit dans une vision nocturne. Cet homme qu'il ne saurait pas plus décrire que ça, si ce n'est de dire que c'est un homme, qui s'approche vers Dieu, verset 14, « On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Et enfin, Éphésiens chapitre 1, et nous arrivons à la conclusion de ce point sur la parole de Dieu. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Donc là, nous avons lu des textes écrits des siècles avant la venue du Christ, qui annoncent que le Messie doit dominer sur les nations. C'est lui qui sera le Seigneur du monde. Il établira un règne de justice, un règne de paix, un règne de vérité qui n'aura jamais de fin. Et juste pour rappel, ce règne a commencé. Mais il commence d'abord dans les cœurs. Si vous vous interrogez sur les guerres actuelles, c'est simplement parce que aujourd'hui, le règne de Christ a déjà commencé, mais il commence d'abord dans les cœurs avant de remplir parfaitement les nations le jour où Jésus reviendra et le jour où il jugera les vivants et les morts. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Paul nous parle de ce que Dieu a fait pour nous et il nous dit ceci, verset 9, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté », c'est-à-dire ce qu'il avait prévu d'avance mais qui était caché jusqu'à ce qu'il le révèle enfin. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui », c'est-à-dire en Christ, « pour l'exécuter, pour le mettre donc à l'œuvre, quand les temps seraient accomplis. » Alors quel est ce projet ? Réunir sous un seul chef, c'est-à-dire le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Tout réunir sous le règne, sous la seigneurie, sous la domination divine de Jésus-Christ. Certainement, les mages, en arrivant à Jérusalem et en recherchant ce roi des Juifs, était conscient que Dieu était en train de mettre à l'œuvre l'une des pièces essentielles de son puzzle, de son plan de rédemption, de salut. Voilà comment Dieu a conduit donc les mages au Christ et à la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus, c'est par sa parole. Ces diverses vérités que Dieu a fait naître, ou en tout cas connaître, dans le cœur de ses mages, et c'est par ces vérités qu'il fait émerger le désir de se prosterner devant le Christ et de lui rendre hommage en signe d'allégeance. Et c'est ce que Dieu a fait pour vous, chrétiens, ce matin, si vous êtes convertis ici. Je sais que tout le monde ce matin ici n'est pas chrétien, mais pour vous qui avez connu Dieu par l'Évangile, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il vous a révélé, fait comprendre des vérités concernant ce Messie, concernant ce Seigneur Jésus. Et par son Esprit Saint, a rendu ces vérités si persuasives, si claires et si désirables qu'en vous sont nés tout plein d'affection pour Jésus-Christ, tout plein de désir de vous prosterner à votre tour devant lui, sachant quel bon maître il est. Le maître qui règne et qui débute son règne en livrant sa vie pour sauver des pécheurs. Mais à ce stade, vous pourriez vous demander, et on pourrait se demander, mais ok, visiblement, ce qu'ils font est conforme à la parole de Dieu. Et donc, ok, on peut affirmer effectivement qu'ils ont été en contact avec cette parole de Dieu. Mais la question qui demeure, comment ? Comment cette parole leur est-elle parvenue ? Et nous arrivons au deuxième moyen. Le premier, la parole de Dieu. Et le deuxième, si vous en souvenez, le deuxième P. La providence, ok, de Dieu. La providence de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'action par laquelle Dieu gouverne le monde et l'histoire des humains et des peuples, sans employer, écoutez bien la précision, sans employer de moyens miraculeux. Dieu peut faire des miracles, mais la providence de Dieu, c'est lorsque Dieu accomplit sa volonté, accomplit son plan au travers de 1000 décisions humaines qui n'ont pas forcément l'intention d'aider Dieu, mais dans sa souveraineté, dans sa sagesse, Dieu arrive à arriver, enfin, il arrive à ses fins, il arrive à accomplir son plan. Si vous voulez une illustration de ça, pensez à Joseph, dont ses frères étaient jaloux et qu'ils ont vendu en Égypte. Quelle était leur intention ? Leur intention était d'éloigner ce frère. Ils étaient jaloux de lui, c'était de l'envoyer le plus loin possible, de s'en débarrasser, parce qu'il avait fait des rêves qui semblaient indiquer qu'il serait un peu le leader parmi la fratrie. Donc leur intention était, on peut la qualifier, mauvaise. Mais Joseph, de sa propre bouche, et le psaume aussi 107 de mémoire le dira, Dieu est celui qui a envoyé Joseph en Égypte. Alors là, on ne comprend plus forcément. On se demande, mais attends, est-ce que ce sont les frères qui l'ont fait ou est-ce que c'est Dieu ? Et la Bible nous dit, ce sont les frères. Et c'est Dieu. Alors maintenant, la question se pose. Quelle était l'intention de Dieu ? Et la Bible nous le révèle, Joseph le dira. Vous l'avez fait avec de mauvaises intentions, mais Dieu l'a fait avec de bonnes intentions, l'intention de vous sauver la vie. Puisque Joseph, une fois en Égypte, arrivera au poste le plus haut après le Pharaon et pourra sauver sa famille de la famine. Et donc vous voyez, la fratrie qui avait des intentions tout à fait contraires à celles de Dieu, des intentions mauvaises, Dieu va quand même utiliser cela pour arriver à ses fins, son projet bienveillant, qui était de sauver la famille de Joseph. Voilà ce que c'est la providence de Dieu. Dans cela, il n'y a eu aucun miracle. Dieu n'a pas envoyé d'ange, Dieu n'a pas, comme zappé la conscience du Pharaon pour qu'il nomme Joseph roi. Non, rien de tout cela. Mais au travers des circonstances de la vie normale, Dieu a tourné les choses pour qu'elles concourent à son plan. Eh bien, venons-en maintenant à nos mages. C'est exactement de cette manière qu'ils ont été mis en contact avec la parole de Dieu. Pensez-y un moment. Nous sommes ici en l'an à peu près 0, pour faire simple, moins 3, moins 4, si on veut être précis, la naissance du Seigneur Jésus. Le peuple d'Israël a été plusieurs fois déporté, plusieurs fois emmené en exil, parfois par région, parfois la quasi-totalité du peuple. Le peuple d'Israël, depuis des siècles, est aussi en contact, des liens commerciaux, des liens politiques avec les autres nations. Et toutes ces choses ont servi à la diffusion de la parole de Dieu. Daniel, adjoint de l'empereur de Babylone, nous pouvons nommer d'autres hommes, Joseph avant et d'autres après, qui ont été aussi Moïse auprès du Pharaon. Et toutes ces choses ont contribué à ce que la parole de Dieu soit connue par d'autres nations. Laissez-moi vous donner encore un exemple pour illustrer cela. Qu'est-ce que dira Rahab, la prostituée qui était non-juive et qui appartenait à cette ville de Jéricho que les Israélites s'apprêtaient à conquérir? Qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle rencontre les espions? Nous avons appris comment Dieu vous a délivré d'Égypte et de ce fait nous sommes remplis de crainte. Vous voyez comment la réputation de Dieu s'est répandue au-delà des murs et des frontières d'Israël. Et de la même manière, donc, nous pouvons être certains que ces mages, dans des circonstances que Matthieu ne nous révèle pas précisément, mais certainement ces mages ont été en contact avec la parole de Dieu parce que Dieu, dans sa providence, la leur a fait parvenir. Juste avant d'arriver au deuxième point qui sera une conclusion avec des applications, je crois que nous devrions nous arrêter plus souvent et réfléchir un moment. Est-ce que nous réalisons la puissance immense de Dieu? Est-ce que nous réalisons son pouvoir sans limite qui lui permet de réussir à composer avec tant d'éléments, tant d'événements, tant de désirs humains parfois contraires à ses désirs, et pour autant réaliser son plan? Venons-en à vous. Est-ce que vous réalisez, vous qui êtes chrétien, qui êtes converti et qui avez la paix avec Dieu, réalisez-vous que Dieu n'a pas simplement touché vos cœurs par sa parole, mais pour que cette parole vous parvienne, il a agi par sa providence pour que vous soyez en contact avec elle. Au travers de la vie de ceux qui vous ont annoncé cette parole. Au travers du fait que vous êtes né à tel endroit et pas à tel autre, que vous avez choisi telle orientation pour vos études et pas telle autre. Si vous remontez peut-être et que vous êtes né dans une famille chrétienne, eh bien la providence de Dieu a agi de ce que vos parents ou vos grands-parents ont été en contact avec cette parole et qu'elle vous est ainsi parvenue. Vous avez peut-être fait un voyage à l'étranger et c'est là que vous avez entendu parler de l'évangile. Peut-être était-ce un jour où vous naviguiez sur Internet et vous êtes tombé sur un article qui vous a interpellé. Et dans toutes ces choses, quel que soit l'angle par lequel la bonne parole de Dieu vous est parvenue, Dieu était à l'œuvre comme un chef d'orchestre. Mais je dirais le meilleur d'entre eux. Aucun chef d'orchestre ne voudrait des musiciens, on va dire, en carton, pour rester courtois. N'est-ce pas? Des musiciens qui, lorsqu'on les entend individuellement, nous donnent envie de nous boucher les oreilles, mais ensemble, c'est encore pire. Mais pourtant, sous un certain angle, nous sommes ces musiciens en carton, et Dieu arrive à composer avec nous une symphonie remarquable par laquelle il sauve les pécheurs de la mort et du jugement. Gloire à Dieu pour cette puissance. Oh, parfois nous voudrions voir des miracles, mais je crois, pour moi, la chose la plus impressionnante, c'est de m'arrêter de considérer comment Dieu, sans miracle, me sauve, en faisant parvenir jusqu'à moi sa bonne parole. Arrivons à quelques implications et quelques applications. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette vérité, cette deuxième vérité mise en évidence par les mages, cette vérité qui est que Dieu est celui qui conduit les pécheurs à reconnaître la seigneurie du Christ par sa parole et par sa providence. Première implication, c'est que personne ne peut vraiment rendre hommage au Christ sans être en accord avec ce que Dieu dit au sujet du Christ dans sa parole. Nous l'avons vu, Dieu utilise la vérité de sa parole lorsqu'il conduit quelqu'un vers le Sauveur. Donc si quelqu'un affirme « Je suis conduit par Dieu dans ma relation avec Christ », mais qu'en même temps cette personne affirme des choses au sujet de Christ qui contredisent la parole de Dieu, alors nous avons de bonnes raisons de douter que cette personne soit vraiment conduite par Dieu. Nous l'avons vu, Dieu emploie sa parole, les vérités de sa parole, pour nous conduire à Jésus. Un encouragement donc pour vous qui êtes chrétiens, reconnaissez la seigneurie de Jésus sur vos vies. Soyez encouragés parce que l'estime que vous accordez à la parole de Dieu est bonne. La grande estime que vous avez pour la parole de Dieu est une bonne chose. Et vous avez raison d'appuyer vos vies entières sur ces saintes écritures qui ont traversé les temps et qui, sans faille, chaque fois qu'un homme ou qu'une femme s'y confiait, les a amenés à la paix avec Christ, à la vraie connaissance de Dieu et de son Fils Jésus. Soyez donc fermes et que cette parole ne s'éloigne pas de vos cœurs, que cette parole ne s'éloigne pas de vos bouches. Méditons-la, chérissons-la, connaissons-la de mieux en mieux et continuons de nous confier en elle. Deuxième implication, il y a une leçon, je crois, précieuse en matière d'évangélisation. C'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons contribuer à ce que les gens soient conduits, eux aussi, à la paix avec Dieu au travers du Christ. Comment convaincre les gens de la vérité de l'Évangile, à votre avis? Comment aider nos contemporains, en 2023, à reconnaître la seigneurie du Christ, comme les mages l'ont fait avant eux? Eh bien, nous devons, je pense, ce texte le montre, et avoir une méthode qui corresponde à celle de Dieu. Autrement dit, nous ne devrions pas adopter des méthodes qui donnent l'impression que ce que Dieu a fait était superflu. Où est-ce que je veux en venir? Certainement, l'Esprit Saint est le meilleur des évangélistes. Or, comment est-ce qu'il évangélise? Il évangélise par la parole de Dieu, par la vérité de la Bible. Et donc, si nous voulons convaincre nos contemporains, n'essayons pas de modifier, de tronquer, d'édulcorer le message de Dieu. Pour le dire de manière un peu triviale, Dieu est suffisamment grand et saura s'occuper de son message et de gérer les effets de son message. Mais nous, annonçons un message conforme à sa parole. Quel est ce message ? Tous sont pécheurs. Tous les hommes ont péché et sont donc séparés de la gloire de Dieu. Quelle est la suite de ce message? Le péché a eu un effet tel qu'ils ne sont pas juste séparés de la gloire de Dieu, mais ils sont même intérieurement ennemis de Dieu une fois qu'ils réalisent qui est Dieu, que Dieu est saint, que Dieu ne leur trouvera pas d'excuses, que Dieu ne tiendra pas Exode chapitre 34, ne tiendra pas pour innocent celui qui est coupable. Voilà le début de ce message. Si nous changeons, nous sommes déjà en train de nous priver du soutien de Dieu pour amener les cœurs au Christ. Mais ce message ne s'arrête pas là. Ce message nous parle de ce Dieu saint, dont certes la justice est implacable et la colère redoutable, mais qui... tout autant, et ce n'est pas opposé, est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu lent à la colère, un Dieu qui supporte les offenses parce qu'il veut encore appeler à lui des pécheurs à se repentir et à trouver la paix, le pardon. Et donc ce message que nous annonçons déclare que Dieu a agi. Il est intervenu dans l'humanité. Comment ? En envoyant son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Un don gratuit de Dieu. Gratuit pour plusieurs raisons, mais je vous en donne deux. Gratuit parce que déjà l'homme ne pourrait rien donner en échange de son âme. Le rachat des âmes est beaucoup trop cher. Le prix du péché est beaucoup trop élevé. Et nos démérites, tellement grands. Mais don gratuit aussi parce que Dieu est en train de montrer ici la grandeur et l'éclat et la splendeur de sa bonté. Qui donnerait sa vie pour éventuellement un juste ? Oh, peut-être, dit Paul. Certains d'entre nous seraient prêts à livrer leur vie pour quelqu'un que l'on aime, quelqu'un d'honnête, de bon. Mais voici comment Dieu nous prouve son amour. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Autrement dit, Jésus-Christ n'est pas mort pour des gens qui le méritaient, il n'est pas mort pour ses amis, mais il est mort pour ses ennemis, et en mourant pour eux, il en fait ses amis. Voilà le message que nous annonçons. Ne le tronquons pas. Du début à la fin, il est le message divin que Dieu nous annonce pour sauver nos âmes et être réconciliés avec ce Dieu qui nous a fait. Troisième implication, plus rapidement. Ce que Matthieu nous relate avec la venue des mages nous montre que le cœur de Dieu embrasse les nations entières et pas juste le peuple juif. Nous avons lu avant la présidence des textes qui nous montrent le désir de Dieu d'envoyer sa bonne nouvelle à toutes les nations. Et je le précise parce que quand vous lirez ou quand vous avez lu l'évangile de Matthieu, il y a des déclarations de Jésus qui sont étonnantes. Il dira par exemple « Je n'ai pas été envoyé à d'autres, sinon aux brebis perdues d'Israël. » Et on pourrait se demander, mais du coup, est-ce que le salut est circonscrit, limité aux Juifs ? Faut-il devenir juif d'ailleurs nous-mêmes pour profiter du salut ? Mais en réalité, comme Rav l'a très bien exprimé, il s'agit ici d'une priorité chronologique et non pas d'une exclusivité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « Dieu sauve les pécheurs par grâce » et l'évangile est la bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, écoutez bien, le juif d'abord et aussi le non-juif. C'est simplement chronologique, c'est le plan de Dieu. Et enfin, dernière implication. La venue des mages devrait nous faire réfléchir à quelque chose quand nous pensons à la providence de Dieu, c'est-à-dire au fait que Dieu a utilisé les circonstances, les guerres, les famines, les déplacements de population, les échanges commerciaux, les relations politiques, les mariages interfamiliaux, les déménagements en toutes sortes. Et que de cette manière, il a fait parvenir sa parole aux mages. Ça devrait nous faire avoir un autre regard sur les troubles que notre monde vit aujourd'hui. Il peut y avoir ce regard pessimiste, ce regard qui dit « mais oh, rien ne va ». Et dans un sens, oui, on pourrait dire que rien ne va comme ça devrait. Des guerres, la guerre en Ukraine n'est pas terminée. La trêve entre Israël et le Hamas, je pense que nous sommes une majorité à savoir qu'elle est probablement très éphémère. Et nous parlons de ces deux guerres alors qu'il y a encore d'autres guerres sur le continent africain, des guerres civiles en Asie. La famine continue de frapper ce monde. Les rivalités, les corruptions en tout genre. Et la liste pourrait être longue. Mais nous pouvons donc avoir ce regard pessimiste et nous dire, rien ne va, ou alors le regard de la foi, qui se souvient que Dieu, même avec des instruments cassés, des musiciens en carton, comme je le disais tout à l'heure, peut composer une symphonie remarquable. Posons-nous plutôt la question suivante donc. Seigneur, qu'es-tu en train de faire? Quelles sont les portes ouvertes? Quelles sont les opportunités nouvelles pour que ton message atteigne et touche encore des hommes et des femmes? C'est ce qu'il a déjà fait en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens qui sont allés en Allemagne notamment, qui ont été recueillis par beaucoup de chrétiens, ont pu pour la première fois entendre un message qui est encore très marginalisé en Ukraine, le message de l'Évangile. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ayons le regard de la foi qui se souvient que Dieu règne et que de la même manière qu'il a conduit les mages à bon port, il peut conduire encore des hommes et des femmes aujourd'hui autour de nous à bon port. Priez donc avec confiance pour vos proches. Priez donc avec confiance pour vos collègues, pour vos voisins. Priez donc avec confiance pour la France. Les baptêmes que nous avons eus en juillet dernier ne seront certainement pas les derniers, tant que Dieu est à l'œuvre, et il est à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse, et je vous propose de m'arrêter là et qu'on ait un temps de prière, si 3 ou 4 personnes veulent prier par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Prions.